Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Nous revenons après la parenthèse électorale pour 2 semaines avant la fermeture de la radio et nous allons parler de To the Moon, Sons, Only the River Flows, Long Legs, Creation of the Gods 1, Les gens d'à côté, Moi, moche et méchant 4. Voilà, on en a vu quand même pas mal, on en a vu 4 sur les 7 ou 5 sur les 7, c'est pas si mal que ça. Voilà, et bien notre programmation musicale sera essentiellement consacrée au film Fly Me to the Moon, ou plutôt To the Moon en français. Oui, parce qu'en anglais c'est Fly Me to the Moon, et en titre français, To the Moon. Allez savoir pourquoi ils ont enlevé Fly, on sait pas trop. Faisait comme ça. Voilà, donc on commence par un titre que Pierre il connaît ça forcément, parce que c'est quand même sa période. Donc je vais lui laisser deviner. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
C'est pas Otis Redding?
C'est pas la version d'Otis Redding, en tous les cas. C'est Chuck Jackson.
Ah bah je connais pas.
I'm Coming, version de Chuck Jackson et Maxine Brown, et un titre que l'on entend dans le film To the Moon, dont on parle tout de suite. To the Moon, c'est un film américain proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Au Pathé Quinconce, il y a des séances en version originale, généralement il n'y en a qu'une par jour. Le film de Greg Berlanti, réalisateur, scénariste, producteur américain en 1972. Son premier film, Le Club des Cœurs Brisés, me paraît inédit en France. Par contre, en 2010, Bébé Mode d'Emploi de Catherine Hegel est sorti. Et en 2018, je me rappelle avoir vu Love, Simon. C'était pas si mal que ça, d'ailleurs. Et puis, il a aussi à son actif des épisodes de série. Pierre vous en dit plus sur To the Moon.
Durée 2h11 avec Scarlett Johansson, Channing Tatum et Jim Rash. Le synopsis, chargé de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage en guise de plan B, et le compte à rebours est vraiment alors lancé. La revue de presse, cinématiseur avec Emmanuel Spadasanta, un duo de choc pour un film ultra chic. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle, avec humour, Ce film se sert habilement de la théorie du complot sur la simulation de l'alunissage en juillet 69 pour réinventer les coulisses de l'événement. Le journal du dimanche, en dépit d'une exposition un peu longue, on est emballé par ce film à la mise en scène dynamique qui repose sur son scénario passionnant et l'interprétation de Scarlett Johansson épatante. Le Parisien avec Renaud Baronian, le film vraiment drôle, bourré de charme, insiste sur la contradiction entre les épouvantables relations professionnelles liant Kelly et Cole, tous deux formidablement campés par Scarlett Johansson et Channing Tatum et leur histoire d'amour naissante. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, de la romance, du style, une bonne rasade d'humour, un zeste de guerre froide et de réflexion, le cocktail tonique et rafraîchissant de l'été. Télérama avec Hélène Marzolf, une comédie aussi astucieuse que romantique. Et puis il y en a qui n'ont pas du tout aimé, par
mais
contre.
Oui.
Le Monde d'abord, bien qu'amusé, le spectateur ne sait plus très bien ce qu'il est venu regarder, To the Moon n'étant jamais assez clair sur ce qui relève du fait réel ou de la pure fantaisie.
Oui.
Libération avec Olivier Lam, alors là ça fait mal. Greg Berlanti réalise un navet insipide sur les premiers pas de l'équipe d'Apollo 11, échouant sur tous les plans. Et enfin, première avec Frédéric Foubert, un film qui paraît plein à craquer, déborde de partout et ne fonctionne en réalité sous aucun angle, ni la romance, laborieuse, Tatum paraissant étrangement désynchronisé avec sa partenaire, ni l'épopée spatiale, déjà vue 100 fois, et encore moins la fable loufoque.
Donc le film est proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Pathé Quinconce, il y a des séances en version géante, une par jour en général. Et je ne suis pas du tout d'accord avec les dernières critiques. C'est une comédie romantique, puisque le film en respecte les codes, mais une comédie romantique dans un contexte bien particulier, celui de la mission Apollo 11, qui doit permettre aux Américains de poser deux hommes sur la Lune pour la première fois. Mission chère aux complotistes, car vous le savez certainement, pour eux, l'homme n'est jamais allé sur la Lune, mais les images de cet alunissage ont été tournées en studio. Alors le film raconte, en mélangeant réalité et fiction, avec habileté d'ailleurs, cet incroyable exploit. Voilà, donc le film est tout à la fois un récit de cette mission, une comédie romantique entre Kelly. Alors Kelly, c'est une brillante experte en marketing publicitaire. Elle est mandatée par un mystérieux agent du gouvernement afin de redorer l'image de la NASA auprès de l'opinion publique américaine à une époque où cette opinion publique est davantage concernée par la guerre du Vietnam que par la conquête spatiale. Et puis, il s'agit aussi de convaincre les hommes politiques du Congrès afin qu'ils poursuivent les efforts budgétaires pour permettre de boucler le programme Apollo. Et le deuxième protagoniste de cette comédie romantique, c'est Cole Davis, le directeur du programme spatial, un homme intègre marqué par l'échec de la première mission Apollo, l'Apollo 1. Le film, c'est aussi ce récit inventé de la réalisation d'un faux alunissage, car en pleine guerre froide, il s'agit de montrer à coup sûr, et avec un plan B donc, au cas où, montrer à coup sûr la réussite de la mission aux yeux du monde et surtout de l'adversaire soviétique. Alors moi, je trouvais le film particulièrement réussi, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec les dernières critiques, particulièrement réussi, que ce soit dans son aspect pure comédie, parce qu'il y a de savoureux second rôles qui sont très amusants. Dans le registre de la comédie romantique glamour, ben là c'est aussi parfait, parce que le charme de Scarlett Johansson et de Channing Tatum fonctionne à merveille, mais aussi ben, on retrouve le lyrisme que le film met à évoquer l'envers du décor et la mission elle-même. Donc pour moi c'est une réussite à 100%. C'est filmé sans temps mort, avec une superbe direction artistique et une belle qualité de mise en scène, mais là archives d'époque et reconstitution pour les besoins de la cause. Il y a beaucoup d'humour, il y a une superbe BO 60s dont vous allez avoir de nombreux extraits, et pas tous parce que certains, pour des raisons techniques, j'arrive pas à les passer. Vraiment, c'est à voir, c'est de loin pour moi le film de la semaine, et peut-être même ça sera le film du mois. Parce qu'il y a un scénario ingénieux, parce qu'il y a une réalisation de qualité, c'est du pur divertissement, mais c'est un film qui a aussi du fond, puisqu'il évoque plein de problématiques, de la politique internationale avec la guerre froide, de manipulation politique, de théorie du complot, et j'en passe. Donc vraiment, je vous incite vivement à aller voir To the Moon, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film, et je n'ai pas senti la durée de 2h11. Voilà pour To the Moon. Sons, c'est un film qui est proposé cette fois-ci au cinéaste. Le film a droit à deux séances par jour. Il a été réalisé par un réalisateur et scénariste producteur danois qui s'appelle Gustav Møller. Il avait réalisé auparavant un film qui s'appelait The Guilty et des épisodes de différentes séries. La durée du film, 1h40. C'est avec Cissé Babette Dutsen, bien connue en France, parce qu'elle a, elle a participé à des films, notamment le film sur l'affaire... ah, ça y est, le nom échappe. Ça s'appelait... cette docteur qui a dénoncé la... pas le glyphosate, je vais retrouver après. Donc Eva, gardienne de prison exemplaire, fait face à un véritable dilemme lorsqu'un jeune homme de son passé est transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle travaille. Sans dévoiler son secret, Eva sollicite sa mutation dans l'unité du jeune homme réputé comme la plus violente de la prison. Cinématiseur Emmanuel Spadacenta, un film diaboliquement précis qui assoit Gustav Möller comme le nouveau cerveau du cinéma danois. Le journal du dimanche, dans une atmosphère pesante et anxiogène, Cissé Babette Dutsen est méconnaissable en surveillante implacable qui dissimule un secret. Ça y est, c'est la fille de Brest, le film. Qui dissimule un secret et met en scène sa vengeance à travers un jeu du chat et de la souris insidieux et sadique. Une femme de pouvoir magnifiée par la mise en scène qui émerge au cœur d'un microcosme où règne chaos et violence. Corinne Renoux-Nativelle, La Croix, après l'époustouflant The Guilty, le cinéaste danois Gustav Möller, livre un thriller carcéral d'une grande noirceur qui interroge la possibilité du pardon. Eric Neuhoff, dans Le Figaro, le film tient beaucoup à la performance de ses interprètes, la toujours juste Cissé Babette Dutsen et l'inflammable Sébastien Bulcerning. Catherine Ball, Le Parisien, se déroule presque entièrement entre les murs d'une prison et l'atmosphère y est oppressante. Elle devient même de plus en plus sombre et violente au fil de l'intrigue. Heureusement, on se laisse porter par le charisme et les nuances de jeu de la formidable Cissé Babette Dutsen, mais ce long métrage reste âpre et profondément sans espoir. La rédaction de Première, avec son cadre serré, presque étouffant, Sons dépeint sans concession la violence du système carcéral et brouille la morale. Jusqu'où est-il acceptable d'aller pour se débarrasser d'un monstre? Et surtout, qui est le véritable monstre de cette histoire? Clément Colliot, Libération, c'est la voix discordante, le relatif dépouillement formel de Möller, qui participait dans son précédent film à recentrer l'attention sur l'écoute, échoue ici à creuser le potentiel de ce voyeurisme carcéral au-delà des simples surcadrages de circonstances au travers des grilles de la prison. Voilà, alors donc Sons s'est proposé au cinéaste, uniquement au cinéaste, et donc forcément en VO. Le titre original du film, je ne sais pas si c'est la traduction de Sons en danois, c'est Vogter. Je ne suis pas sûr. Eva est gardienne de prison, donc, et puis un jour, un détenu est transféré dans son établissement. Celui-ci n'est pas un inconnu pour elle, alors on peut le dire tout de suite, parce qu'on découvre très vite, hein, c'est au bout d'une demi-heure sur un film d'1h40, qu'il a été l'assassin de son fils, ce que tout le monde ignore dans la prison, car Eva garde le secret. Alors, moi, ça me pose un problème de crédibilité, parce que on peut penser que si ce garçon qui s'appelle Mickaël a tué son fils, il y a eu un procès. Et à ce procès, on peut difficilement imaginer que sa mère n'était pas présente, ne serait-ce que partie civile.
Ah oui.
Donc, elle ne l'ait pas reconnu, que lui ne l'ait pas reconnu, ça me pose un problème. Enfin, bref. Bon, elle demande alors donc à travailler dans le QHS, quartier de sécurité, où celui-ci est incarcéré et commence alors une drôle de relation entre eux et va multipliant les brimades, les humiliations à l'égard de Mickaël. Puis la relation se fait plus ambiguë entre eux au gré des circonstances, dans une sorte de relation où chacun prend tour à tour l'ascendant sur l'autre, dans un chantage permanent, un jeu, comme l'ont dit certains critiques, du chat et de la souris. Donc c'est un film de prison, bien sûr, à l'atmosphère oppressante, qui parle de vengeance, de la possibilité, ou pas d'ailleurs, de résilience pour ces deux protagonistes. Un film tendu, avec un beau personnage féminin, tout en souffrance et en contradiction, incarné par Cissé Babette Dutsen, très impressionnante, il faut le reconnaître. C'est un thriller très sombre, dur, âpre dans sa première heure, plus ambigu par la suite, qui parle de deuil impossible, de pardon éventuel, dans le casuit huis clos d'une prison. J'ai pas été hyper emballé, mais c'est pas impossible non plus d'aller voir ça. Pierre?
Moi, j'ai assez aimé, en fait. Ce film, donc, d'un jeune réalisateur danois nous plonge dans l'univers carcéral, un monde dur, sans pitié. Il se dégage de ce long métrage une atmosphère lourde, pesante, dans un vase presque clos, celui d'une prison. Je dis presque parce qu'à un moment, quand même, on a droit à une courte escapade dans la nature. Ouf ! Ce film est un véritable thriller psychologique, avec en tête d'affiche l'actrice danoise Cissé Babette Dutsen, face à Sébastien Bull, criant de vérité dans le rôle du criminel. Ouais, c'est vrai qu'on y croit. Hein.
Oui.
Oui, l'interprétation est irréprochable, voir les gros plans et les silences d'Eva, la gardienne de prison. Après The Guilty, donc en 2021, Gustav Möller signe, là, à mon avis, un bon film quand même.
Voilà, donc c'est proposé par les cinéastes, 2 séances par jour et en VO comme il se doit. Toujours dans To the Moon, eh ben, titre Moon River, c'est un classique, hein, vous connaissez certainement d'autres versions de Moon River que celle-ci. Celle-ci, je crois que c'est Ella Fitzgerald.
Moon River, water than mine, I'm crossing you in style someday. Dream maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world, and such a lot of world there is to see. We're after the same rainbows in, waiting round the bend, my huckleberry friend, move. A lot of world there is to see. Dream maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world, and such a lot of world there is to see.
Moon River, version Ella Fitzgerald, et ce titre on l'entend dans To the Moon. Only the River Flows, c'est un film chinois de Su Junhui. Su Junhui, c'est un réalisateur, scénariste, acteur chinois né en 91. Il a auparavant réalisé des courts-métrages et 2 longs qui me semblent inédits en France, donc je ne vais même pas vous citer les titres. 1h42 pour ce film proposé par les cinéastes avec en général 2 séances par jour, sauf samedi une seule. Et donc en Chine, dans les années 1990, 3 meurtres sont commis dans la petite ville de Banpo. Ma Zhe, ou Zhe, je ne sais pas, le chef de la police criminelle est chargé d'élucider l'affaire. Un sac à main abandonné au bord de la rivière et des témoignages de passants désignent plusieurs suspects. Alors que l'affaire a piétine, l'inspecteur Ma est confronté à la noirceur de l'âme humaine et s'enfonce dans le doute. La rédaction du Point déclare que le film tourné en pellicule est particulièrement beau esthétiquement, avec une vraie atmosphère de polar. Thomas Borès dans West France parle d'un thriller noir comme l'enfer. Yannick Velly dans Paris Match, polar ténébreux, made in China, Only the River Flows, pourrait bien être le succès surprise de cet été. J'y crois pas trop, mais enfin passons. Frédéric Strauss, télérama, réel et poésie se mélangent dans ce film fantasque et fantomatique signé par le jeune réalisateur Wei Shujun. Le Monde, 3e long métrage de Wei Shujun, adaptation d'une nouvelle de Yu Hua, Only the River Flows, est un film de pluie, de nuit, de solitude et d'angoisse, une sensation sans doute accrue par le choix du réalisateur de tourner en pellicule et non pas en numérique. Renaud Baronian, Le Parisien, ambiance hyper poisseuse, noirceur qui va grandissante, enquête qui se complexifie de plus en plus. Tous les ingrédients du polar chinois moderne sont réunis dans ce film qui fait un pari formellement réussi, mais un peu facile, en installant ses héros dans un cinéma abandonné, histoire de se mettre les cinéphiles dans la poche. Première, servie par une mise en scène solide, Only the River Flows, porte en lui une tension fiévreuse qui ne faiblit pas. L'élogie Mi-Battista dans Libération, pas un pet à côté, rien à redire, 20 sur 20, admis en classe supérieure avec les félicitations du jury, manque juste l'électricité qui pourrait faire tourner tout ça, en face gronder le cœur, donne l'impression qu'il y a un regard derrière la caméra et un monde qui lui appartient et dont on ignorait tout devant, l'essentiel en somme, quoi. Donc, Pierre a été voir, en tant que spécialiste du cinéma asiatique, Only the River Flows. Qu'en as-tu pensé ?
Bah, c'est moyen. Alors, je voudrais d'abord, en préambule, vous dire que ce film est adapté d'une nouvelle de l'auteur chinois Yu Hua. Alors, nouvelle, ça veut dire que, bon, c'est pas facile à comprendre. Ce long métrage est tout à fait dans la lignée des films asiatiques. En général, il est lent. Nous suivons ici une enquête policière après le meurtre d'une vieille femme, mais le chef de la police criminelle, Ma Zhe, on vient petit à petit à confondre rêve et réalité. Et donc, c'est là que ça devient compliqué pour le spectateur. Nous sommes partagés entre réalité de l'enquête et fiction onirique sans transition. On frise alors le fantastique. Alors, qui est l'auteur du crime ? Celui de la réalité ou du rêve ? À ce petit jeu, l'enquêteur se retrouve seul face à ce qui n'a pas de sens. Alors, je vais vous faire une confidence. Je me demande vraiment si j'ai tout compris dans ce film. Ce film a été présenté à Cannes quand même dans le cadre d'Un certain regard.
Et donc, c'est proposé cette fois-ci au cinéaste avec 2 séances par jour, sauf dimanche, une seule. Only the River Flows. Long Legs. Long Legs, c'est un film qui est proposé cette fois-ci uniquement au Méga CGR, que de la VF. C'est un film réalisé par Oz Perkins, acteur, réalisateur, scénariste américain en 1974. Il a réalisé auparavant, en 2015, February, avec Emma Roberts, directement envoyé en VOD. Et puis ensuite, pour Netflix, I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Ouais. Et puis, 2020, Gretel and Hansel, en DVD. Voilà, donc c'est son premier film à sortir sur les grands écrans de cinéma. Pierre vous en dit plus sur Long Legs.
Non, j'ai pas.
Ah, ben si, je te l'ai donné, mais bon, c'est pas grave.
Pardon, je me suis mêlé dans mes papiers.
Et oui.
Allez, on y va. Alors, avertissement tout d'abord, ce film est interdit au moins de 12 ans.
Oui,
avec Micah Monroe, Nicolas Cage et Blair Underwood. Synopsis, l'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affecté sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête, aux frontières de l'occulte, se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. La revue de presse, cinématiseur avec Aurélien Alain, un film de tueur en série d'une redoutable efficacité. Le Monde, Oz Perkins joue avec les apparitions de Longlegs, multipliant les décadrages et les hors-champs comme pour résister à la menace outrancière de l'acteur. Ce thriller élégant assoit son horreur sur des effets sobres où seuls l'ocre et le noir donnent leur teinte au décor et aux personnages. Et puis ceux qui ont beaucoup moins aimé, le journal du dimanche, Oz Perkins invente une légende urbaine avec un croque-mitaine interprété par un Nicolas Cage en roue libre et donne à son image une patine vintage baignée dans une atmosphère malaisante qui convoque le silence des agneaux de Jonathan Demme, sauf que la forme l'emporte sur le fond. On s'égare dans les méandres d'une intrigue nébuleuse, au final pas si originale. Le Parisien, avec Renaud Baronian, reste une ambiance sombre, bien mise en scène et une très soignée esthétique cafardeuse, mais cela ne suffit pas à gommer l'impression de déjà-vu. Et enfin, première, avec Frédéric Foubert, Long Legs révèle malheureusement rapidement qu'il a plus de style que de substance. Perkins sait fabriquer des ambiances inquiétantes, des images chocs, mais qui sont surtout là pour camoufler une intrigue assez banale.
Ben oui, Long Legs. Alors la référence au Silence des Agneaux, elle a été piquée dans le dossier de presse, parce que franchement, à part que c'est une femme qui enquête sur un tueur en série, bon, passons. Donc Long Legs, c'est un thriller horrifique, à tendance mystico-ésotérique, mais surtout grotesque, auquel on ne comprend rien jusqu'à son épilogue, et encore un épilogue extrêmement capillotracté. Autant le dire tout de suite, c'est à fuir absolument. L'histoire, eh bien, c'est celle d'une jeune inspectrice du FBI aux intuitions médiumniques, chargée d'enquêter sur un terrible tueur en série, le fameux Long Legs du titre. Au mode opératoire mystérieux d'ailleurs, et auquel l'inspectrice semble liée par son passé. Ça, on le découvre en cours de route. Bon. Certes, le réalisateur nous plonge dans une atmosphère bien spéciale, très étrange, avec quelques scènes chocs que n'aurait pas supporté Pierre, c'est sûr. Mais comme on ne voit pas bien où on va et on finit donc par décrocher, voilà, le problème n'est pas l'invraisemblance. Après tout, pourquoi pas dans ce genre de film On ne demande pas aux esprits cartésiens d'être à la mise en scène et au scénario, mais c'est l'incohérence de l'ensemble et le peu d'intérêt de l'histoire et des personnages. Mention spéciale à Nicolas Cage qui en fait des tonnes, mais alors vraiment des tonnes, dans ce rôle de tueur en série au teint diaphane. Et pourtant, Nicolas Cage, dans le genre en faire des tonnes, il est quand même assez fort. Bref, on a très très vite une sensation de longueur, pourtant le film ne fait qu'1h40, hein, tant on s'ennuie ferme. Seuls les gens pour qui la forme l'emporte sur le fond auront peut-être satisfaction à voir le film, parce que le réalisateur sait, je le répète, créer une ambiance malaisante en permanence. Bref, il a un style, mais bon, c'est quand même bien peu pour recommander un film qui est, je vous répète, grotesque. Voilà, donc ça s'appelle Long Legs, et c'est au cinéma Méga CGR, uniquement Méga CGR, et que de la VF. Toujours d'ailleurs au Méga CGR, uniquement au Méga CGR, Creation of the Gods One, alors Creation of the Gods One, alors si on peut penser que s'il y a One, c'est qu'il y aura un Two et un Three, peut-être, je ne sais pas, en tous les cas, c'est un film de 2h28, un film chinois de Wershan. Wershan, c'est un réalisateur scénariste, producteur chinois né en 72. Il a à son actif des films qui ont été directement envoyés sur les étagères des DVD. Le synopsis de Creation of the Gods, c'est l'adaptation d'une des plus grandes légendes chinoises. Le prince Yin Shu tente de monter sur le trône du royaume des Shang, dans le sang, avec l'aide de sa maîtresse Su Daji, elle-même sous l'emprise du démon renard, va comprendre. Le sage taoïste Jiang Ziya, descendu du mont sacré Kunlun, et Jifa, jeune guerrier élevé par Yin Shu, s'allient pour combattre le tyran. C'est pas vraiment le genre de synopsis qui donne envie d'aller voir le film, mais enfin, il faut dire que ça dure 2h28.
Ouais, quand même.
Caroline Vier, dans 20 minutes, cette fresque historique et fantastique surprend par son côté spectaculaire. Emmanuel Spalacenta, dans Cinématiseur, parle d'un univers fascinant. Michel Valentin, le Parisien, l'intrigue est certes complexe, les personnages nombreux, mais identifiés avec un petit panneau à leur nom chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran. C'est bizarre ça. Mais l'histoire est un enchantement perpétuel, conçu avec plaisir, et les scènes de bataille sont carrément épiques. Thierry Chaise, dans Ouest-France, parle d'une mise en scène spectaculaire. François Fioresti, dans L'Obs, du grand spectacle, avec immense bataille, tour de magie, conflit entre les royaumes, effets digitaux massifs plongés dans la mythologie de la Chine. On en a pour son argent, avec ses 148 minutes de bruit, de fureur, de miracles numériques et de violence esthétique. Stéphanie Belpech est moins enthousiaste dans le journal du dimanche. Impressionnant, de quoi oublier un rythme irrégulier. Yannick Veli dans Paris Match, l'argent est à l'écran, le plaisir aussi, même si la fin forcément ouverte frustre un peu et qu'il manque peut-être un grand réalisateur derrière la caméra. Samuel Douer, Télérama, un peu déroutant pendant le premier quart d'heure, notamment à cause d'effets spéciaux parfois ratés. Le très grand spectacle a cependant suffisamment d'atouts esthétiques et narratifs pour attirer un large public. C'est pas le cas de Théo Riboton dans Les Inoccupables, difficile de percer la coque de son ennui poli pour atteindre pleinement ce qui devrait se jouer là, à savoir une contre-proposition à un entertainment hollywoodien en déclin et produire un dépaysement à plusieurs titres. Alors là, déjà, 2h28, c'est bien long pour un film. Alors, un film chinois d'action, je sais à peu près ce que ça donne. Donc, je ne me suis pas déplacé pour aller voir le film. Et pour Pierre, c'est aussi beaucoup trop long. Et puis, c'est pas son genre.
Moi, j'aime les films chinois, mais pas ce genre-là.
Voilà. Donc, Creation of the Gods One. On pensait que si le film a du succès, il y aura un two et un three. On ne sait pas, on verra. Voilà. Donc, c'est au cinéma Méga CGR. Allez, petite pause musicale. Là, Pierre, il va reconnaître parce que, bon, je dis pas, mais on entend ça dans To the Moon. On va voir ça. Petit blind test pour Pierre.
Bee Gees.
Bravo, To Love Somebody.
Ouais.
There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be a little. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got hey, baby, you down. To love somebody the way I love you.
see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so glad. And I'm glad. So, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? I ain't got you, ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
No, 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 no.
You don't know what it's like. You don't know what it's like. You know what it's like.
To love somebody, Bee Gees, c'est l'occasion d'une scène romantique dans le film Un slow langoureux entre Scarlett Johansson et Channing Tatum dans le film To the Moon. Les gens d'à côté. Les gens d'à côté, c'est un film d'André Téchiné proposé par le cinéma Le Colisée. André Téchiné, c'est quand même un réalisateur, scénariste, dialoguiste très connu. Il est né en 43, donc il a 80 ans, le brave homme. Il a à son actif une bonne trentaine de longs métrages. Il a commencé sa carrière en tant que critique et journaliste au Cahier du Cinéma. Et puis en 75, premier long métrage qui avait marqué les esprits déjà, Souvenirs d'en France avec Jeanne Moreau et Marie-France Pizier. Alors qu'est-ce qu'on peut citer comme film de Téchiné? Ben, par exemple, Barocco avec Isabelle Adjani, Marie-France Pizier, Gérard Depardieu. Marie-France Pizier a été longtemps une actrice fétiche. 79, Les Sœurs Bronté avec Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Marie-France Pizier, Hôtel des Amériques avec Deneuve, Patrick Devers. Qu'est-ce qu'il y avait? Rendez-vous. Je crois que c'était le premier rôle de Juliette Binoche avec Jean-Louis Trintignant aussi, Lambert Wilson. Le lieu du crime en 85 avec Deneuve, Daniel Darieux. 87, Les Innocents avec Simon de Labrosse, Sandrine Bonner. 91, J'embrasse pas avec Philippe Noiret, Emmanuel Béart, Emmanuel Blanc. De 93, Ma saison préférée avec Deneuve, Auteuil, Marthe Villalonga. 94, Les Roseaux Sauvages qui avait révélé Élodie Bouchez, Gaël Morel et Stéphane Rideau. 96, Les Voleurs avec Benoît Magimel, Laurent Scott, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil. Vous voyez, il est très fidèle à peu près toujours aux mêmes acteurs. Hein. 98, Alice et Martin avec Juliette Binoche encore. 2001, Louin avec Stéphane Rideau. 2003, Les Égarés avec Emmanuel Béart et Gaspard Ulliel. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Ben, les derniers, on va citer, alors, par exemple, en 2014, l'homme qu'on aimait trop avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel. 2016, Quand on a 17 ans avec Sandrine Kiberlin et Casey Mottet-Klein. 2017, Nos années folles avec Pierre Deladonchamp et Céline Salette. 2019, L'adieu à la nuit avec Catherine Deneuve et Casey Mottet-Klein. Et 2023, Les âmes sœurs avec Noémie Merland, Benjamin Voisin et Audrey Dana. Voilà, je ne vous ai pas donné tous les films, mais vous avez vu que beaucoup de films sont des films qui sont connus. En général, les films d'André Chiné passent aux cinéastes, et là, je ne sais pas pourquoi les cinéastes ont fait la gueule. le film est proposé uniquement au Colisée, ce qui va lui coûter certainement pas mal d'entrées, parce que, enfin, au moins tous les cas au moins, hein, mais parce que bah, les gens sont fidèles généralement aux cinéastes et ils y vont en masse voir ce genre de film. Et là, on n'était que 4 dans la salle à 14h. Oui, dont une dame qui s'étonnait, comme moi, que le film soit proposé au Colisée. Bon, après tout. Les gens d'à côté, Pierre, parle-nous de ce film.
Durée 1h25 avec Isabelle Huppert, Afsir Hirzi et Navel Pérez Biscayar. Le synopsis, Lucie est une agent de police technique et scientifique. Son quotidien solitaire est troublé par l'arrivée dans sa zone pavillonnaire d'un jeune couple, parent d'une petite fille. Alors qu'elle se prend d'affection pour ses nouveaux voisins, elle découvre que Yann, le père, est un activiste anti-flic au lourd casier judiciaire. Le conflit moral de Lucie entre sa conscience professionnelle et son amitié naissante pour cette famille fera vaciller ses certitudes. La revue de presse, L'Obs avec Sophie Grassin. Les acteurs jouent leur partition avec sobriété, Isabelle Huppert en tête, mais Afsia Herzi et Nawel Pérez Biscayer aussi, qui composent un couple auquel on croit dans ce film utopique et ouvert à une possible réconciliation des contraires. Le Figaro, avec Olivier Delcroix, à 80 ans, le cinéaste réussit un film sensible à fleur de peau avec le formidable duo Isabelle Huppert et Afsia Herzi. Marianne, avec Olivier Debrune, un film atypique qui piétine les clichés. La Croix, avec Céline Roudin, par le biais de l'intime, André Téchiné traite des antagonismes autour des violences policières avec une intrigue parfois un peu simpliste. Le Monde, le sujet du film est ainsi clairement posé entre l'amitié naissante qui lie la policière à ce jeune couple et les actes délictueux devant lesquels sa conscience professionnelle et sociable se cabre. À cet égard, on peut faire confiance à André Téchiné pour éviter le manichéisme et mettre de la complexité dans son sujet. Le programme romanesque ne convainc cependant qu'à moitié. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier, si le réalisateur échoue à rendre son récit crédible, il instaure néanmoins un bon suspense et réussit le portrait sensible d'une femme ébranlée dans ses certitudes. Télérama avec Louis Guichard, ici, la dramaturgie et les situations demeurent convaincantes pendant la plus grande partie du film, mais moins à l'approche du dénouement et dans un épilogue à la fabrication trop visible. Reste une démarche de cinéma pertinente et précise, consistant à convertir nos débats les plus actuels en un récit qui n'a rien de théorique, avec des sentiments qui nous touchent. Mais il y en a qui n'ont pas aimé, pour West France par exemple, avec Pascal Vergerot, la confrontation aurait pu être très intéressante, mais André Téchiné reste en surface et Isabelle Huppert est plus froide que jamais. Et enfin Première, avec Thomas Borrez, dilemme moral et renversement possible des valeurs. Lucie cache d'abord sa profession et semble jouer ainsi avec le feu. Problème, ce feu ne prend jamais et les enjeux dramatiques se dénouent platement avant même d'être vraiment amorcés.
Voilà, donc ça s'appelle Les gens d'à côté, c'est proposé par le cinéma Le Colisée, donc c'est l'histoire de Lucie, et Lucie, elle vit dans une zone pavillonnaire, c'est une femme flic, elle est veuve, son mari, lui-même policier, s'est suicidé, et sous la forme d'ailleurs d'une sorte de fantôme, vient de temps en temps lui rendre visite. Bon, ça c'est pas forcément très, très bien dans le film, enfin passons. Un jour, Lucie fait la connaissance de ses nouveaux voisins, alors ces nouveaux voisins, eh bien, c'est un jeune couple avec une enfant d'une dizaine d'années. Alors, dans le couple, eh bien, elle est une jeune institutrice, et lui, c'est un artiste dont on découvre bien vite qu'il est un activiste anti-flic, genre Black Bloc, vous voyez, si vous voyez un petit peu. Lucie ne leur dit pas quel est son métier, donc elle ne leur dit pas qu'elle est flic, et elle devient amie avec eux, peut-être pour rendre sa solitude moins pesante, tout simplement parce qu'elle les apprécie, eux, et leur petite fille dont elle s'occupe à l'occasion. Bien vite, cependant, elle va se poser pour elle un dilemme moral entre être fidèle à son métier et les valeurs d'ordre et de respect de la loi qu'il véhicule, et son amitié avec ce jeune couple, voilà, dont un film qui évoque à la fois la difficulté d'exercer le métier de policier et aussi les motivations de ces jeunes activistes anti-système. Voilà. Donc, je trouve le film totalement convaincant dans sa mise en scène et sa direction d'acteur. Le film de Téchiné m'a laissé un petit peu sur ma faim, je dois reconnaître. Alors Isabelle Huppert qui court beaucoup dans le film, je ne sais pas pourquoi, 3-4 fois on la voit courir d'ailleurs, d'une drôle de foulée d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est, elle court comme ça d'habitude, en fait, c'est bien raide chez toi. Enfin, bon. Donc Isabelle Huppert commente en voix off ce qui se passe dans sa vie. Ça m'a paru assez atone comme jeu d'acteur. Bon, et puis, tout comme d'ailleurs Afsia Herzi, Emmanuel Pérez Biscayer, on a un peu de mal à imaginer le gars, il est pas plus épais qu'un sandwich SNCF, comme dirait Renaud, être un Black Bloc, je dirais un peu plus costaud que ça, moi, mais enfin bon, passons, pourquoi pas. Donc, c'est une histoire entre vie personnelle et métier exercé qui m'a que partiellement convaincu, mais au moins c'est pas trop long, ça fait qu'1h25 et ça évite de tomber donc vraiment dans l'ennui, ce qui aurait pu arriver avec un film qui aurait dépassé 1h30. Hein. Donc c'est un portrait de femme qui manque d'émotion sur le thème d'une amitié contrariée par des points de vue opposés sur le rôle de la police dans la société. J'ai du mal à recommander le film, même si j'ai pas d'aversion profonde contre André Téchiné en général, j'aime bien ce qu'il fait, mais je suis pas non plus hyper enthousiaste avec André Téchiné, là c'est un peu tiède comme film. Voilà, ça s'appelle Les gens d'à côté, c'est proposé par le Colisée. Dernier film de cette semaine, Moi, moche et méchant 4. Alors là, par contre, là, vous pouvez pas le rater. C'est au Pâté Quinconce, c'est au Colisée, c'est au Méga CGR. C'est un film d'animation de Chris Renaud et Patrick Delage. Alors, Patrick Delage, c'est son premier long métrage en tant que réalisateur, mais sinon, il a participé déjà à des films comme Tous en scène 1 et 2, à Moi, moche et méchant 1 et 2, à Wall-E. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille dans l'animation depuis un petit moment. Quant à Chris Renaud, lui, vous le connaissez, puisqu'il était le co-réalisateur avec Pierre Coffin du premier Moi, moche et méchant. Il a également réalisé en co-réalisé en 2012 Le Lorax, mais aussi Moi, moche et méchant 2. Et enfin, Comme des bêtes 1 et Comme des bêtes... Enfin, Comme des bêtes 1, Comme des bêtes et Comme des bêtes 2. Voilà, aussi, c'était co-réalisé. Ce film est un film d'animation, donc je le répète, d'une durée d'une heure 34. Pour la première fois en 7 ans, Gru, le super méchant le plus populaire du monde, devenu super agent de l'agence Vigilance de Lynx, revient dans un nouveau chapitre aussi hilarant que chaotique de la célébrissime saga d'Illumination, ou Illumination, c'est le nom du studio, Moi, moche et méchant, car je dis Illumination, parce que c'est un studio français à l'origine. Gru, Lucie et les filles, Margot, Edith et Agnès, accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi, Maxime le Mâle, qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir. Une revue de presse très partagée, Thierry Chaise dans Ouest-France, un feu d'artifice de gags irrésistible pour toutes les générations. Olivier Delcroix, Le Figaro, 7 ans après le précédent volet, ce 4e opus, réussit à renouveler la franchise de Gru, et c'est mignon. Et oui, parce que mignon, c'est aussi dans Moi, moche et méchant. Le Parisien, Renaud Barognan, mené à 100 à l'heure, ce 4e volet de la saga s'avère extrêmement drôle, et cette fois pas uniquement grâce à la seule présence des impayables mignons, même si leur prêtrerie et transformation physique occasionnent de belles séances de fou rire. Charlotte de Frémont dans La Croix, si ce nouveau scénario reste très simple, la cascade de gags ramène un vent de folie à la franchise, ce qui réjouira les familles en ce début de vacances. Antea Clos, dans Première, les petits s'amusent, les adultes y trouvent aussi leur compte, avec des blagues qui leur sont tout spécialement dessinées, à coups de moquerie et de références vintage. Personne ne peut au fond résister à ce feu d'artifice de farce et de mignonnerie. Olivier de Bruyne dans Les Échos, Olivier de Bruyne dans Les Échos, malgré quelques facilités, ce spectacle populaire est recommandable. Le Journal du Dimanche, humour débridé et de l'absurde au burlesque, rythme trépidant, action à gogo au milieu d'un récit en roue libre et dont le scénario chaotique part un peu dans tous les sens, mais qui continue de séduire par son enthousiasme, sa folie et sa manière de ne pas du tout se prendre au sérieux. Mais il y en a qui n'ont pas aimé. C'est Caroline Vier dans 20 minutes qui d'habitude est assez indulgente. Moi, moche et méchant 4 se révèle poussif malgré la présence de personnages familiers. Xavier Lerper dans l'Obs, visiblement, les deux équipes de scénaristes n'ont pas jugé nécessaire de se rencontrer. Dommage, car le récit construit en deux couches très distinctes en souffre terriblement, tout comme le rythme. Certes, les petites créatures oblongues, jaunes et bleues, c'est-à-dire les mignons, sont toujours aussi poilantes, mais ça, on le savait depuis longtemps. Mathieu Joubert Le Monde, voilà la franchise réduite à une pure visée commerciale qui ne la distingue en rien d'un programme de télévision pour enfants. Et enfin, Le Point, un divertissement vite consommé et vite oublié. Nous n'avons pas vu Moi, moche et méchant 4, ni Pierre, ni moi.
Non.
Mais ça n'empêche pas le film de faire un beau carton, c'est évident, on est en vacances, et c'est un film comme les aiment les enfants, un film pour eux.
Ben, si on en parle, je veux bien annoncer maintenant les films du cinéaste.
Eh ben vas-y.
Oui. Alors les cinéastes, comme chaque vacances, vous proposent des films pour enfants. Là, ça s'appelle le Little Film Festival. C'est déjà la 6e édition. Alors, à partir de 3 ans, La Grande Aventure de Non-Non et Super Astico. À partir de 4 ans, La Colline au Caillou, Yuku et la Fleur de l'Himalaya et Le Lion et les Trois Brigands. Et enfin, à partir de 6 ans, Linda veut du poulet. Alors pour les horaires et les jours, je vous convie soit à aller chercher un dépliant au cinéaste, soit à aller sur le site les-cinéastes.fr. Alors attention, cet après-midi, il y a un ciné-goûter à 16h avec la projection de La Colline au Caillou. Et puis dimanche prochain, avant-première, Petit Conte sous l'océan, ce sera à 17h. Et enfin, je voudrais ajouter, notez bien ça, le cinéma Les Cinéastes ferme un mois. Du 21 juillet au 20 août.
Voilà, ben avant de vous annoncer les films pour la semaine prochaine, parce que Clap sera encore là la semaine prochaine.
Oui.
Un dernier titre extrait de la bande originale du film To the Moon, c'est Sam Cooke, This Fooling Things sur Radio Alpa, sur 7.3 faiblement.
a cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tickling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. Yeah, the winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Let me tell you, first daffodils and long excited cables, and candlelights on little corner tables, and still my heart has wings. Oh, these foolish things remind me of you. Yeah, yeah. The park at evening and the scent of the roses, and waiters whistling as the last bar closes. And oh, a beauty that is spring, springs. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. To me, they seem to bring you near to me. Yeah, yeah. The sigh of midnight trains and empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations, and oh, how the ghost of you clings, clings, clings. These foolish things remind me of you. These foolish things remind me of you.
Sam Cooke, These Foolish Things, un titre que l'on entend dans le film To the Moon. La semaine prochaine, qu'avons-nous à nous mettre sous les yeux ? Eh bien, déjà à l'avant-première, Twisters. Alors bon, Twisters, ça sera un film à effets spéciaux. On a déjà vu plusieurs films sur ce phénomène des tornades aux États-Unis. Mais donc, mardi soir, ben, vous pouvez avoir des avant-premières. Alors, si vous allez au Méga CGR, c'est 18h, 20h et 21h. On peut penser que ces trois horaires, il y en aura un qui sera en salle Ice. Au Pathé Quincon, c'est 19h30 et 21h45. 21h45, je crois, c'est en 4DX. Et puis au Colisée, ce sera à 18h et 21h pour les avant-premières de Twisters. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine, au cinéma, il y aura Hit the Night. C'est un film français, malgré le titre, là. Il y aura également Santosh. C'est un film indien. Et puis, on devrait avoir deux comédies françaises, peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais enfin, on ne sait jamais. Presque Légal, ça c'est une teenage comédie, hein. Et puis Le Larbin, un film avec Cadmerade et Clovis Cornillac. Cette semaine, Pierre, tu recommandes ?
Bah, pas le film chinois, pour une fois, je préfère Sons.
Et moi, je recommande alors absolument To the Moon. Voilà, ben sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on devrait se retrouver la semaine prochaine pour la dernière de la saison.
Et oui.
Sur Radio Alpa 7.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.